Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de Voûte. Je suis Audrey Carsalan, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du Nouveau Monde à développer leur business, les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot « entreprendre » en participant à l'éveil des consciences. La Clé de Voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Jeanne Lehmann et c'est un vrai coup de cœur. Le silence a toujours été son allié, que ce soit dans son enfance tumultueuse, dans son adolescence et également dans sa vie active. Il y a toujours un moment où elle venait se reconnecter au silence et où ce silence venait la ressourcer. Ce silence a tellement été son ami qu'elle a décidé en 2019 de créer Silence. Et ça devient sa mission de vie. Et on la surnomme gardienne du silence. Depuis 5 ans, Jeanne crée et facilite des expériences silencieuses qui ont touché et transformé la vie de milliers d'humains en chemin. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue à toi, Jeanne. Bonjour, Jeanne.
Bonjour, Audrey.
Je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement et me dire pourquoi tu l'as choisi et ce qu'il symbolise pour toi ?
Alors déjà, merci pour cette question, parce que de me la poser à moi-même, ça m'a permis de replonger un petit peu dans ce livre. Ça fait des mois que je me dis que j'aimerais bien le relire, donc je l'ai retenu en main un petit peu, et ça, c'est un beau moment. Donc c'est « Les conversations avec Dieu » de Neil Donald Walsh. C'est un livre dont on m'avait parlé depuis des années, mais l'auteur dit que ce livre vient à toi au moment où tu es prête dans ta vie à le lire. Donc ça me passait un petit peu au travers, comme ça, jusqu'il y a à peu près 3 ans, on me l'a offert. Et là, je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment plongé dans cette... il y a d'abord la trilogie, j'ai lu les 4 premiers tomes. C'est assez épais. Et en fait, l'auteur est en communication, en correspondance directe avec Dieu. Donc je sais que pour certains, c'est pas crédible. C'est pour ça que l'auteur parle d'un moment où on peut être prêt à recevoir ce livre. Et moi, je crois que j'étais prête à ce moment-là. C'est un moment où je m'étais accordée... J'avais une semaine dans ma vie pour faire une petite retraite toute seule à la maison. J'ai choisi un micro-dosage de champignons à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à lire le livre et j'ai complètement plongé dedans. Enfin, j'ai été attrapée par cette correspondance où vraiment l'auteur donc pose des questions directes à Dieu, et c'est des questions très concrètes sur le sens de l'existence, sur les relations humaines, sur la santé, sur les vies antérieures, etc. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me souviens que je me réveillais la nuit pour le lire. D'ailleurs, lui, je crois qu'il est à 3h du matin, il était réveillé toutes les nuits. Je sais pas si t'as lu ce livre-là, oui. Mais en fait, il l'écrit, il est réveillé au milieu de sa nuit pour venir communiquer avec Dieu, et ça sort tout seul en fait. Et moi, je me souviens que je me réveillais la nuit pour le lire et j'étais complètement absorbée. Donc si c'est le beau moment pour vous, chers auditeurs, peut-être attraper ce livre.
Et il t'a apporté quoi au juste, ce livre, en termes de réponse?
En fait, j'ai l'impression qu'une fois que t'es rentrée dans la croyance que c'est réel en fait, que ça peut vraiment être Dieu qui répond. Donc il faut vraiment passer le pas en fait, et après ces questions sont hyper concrètes sur déjà la vie, qu'est-ce qu'on est, après il pose même des questions sur la sexualité, sur la santé, sur le corps humain, donc ça brasse plein de sujets très concrets, et ça m'a apporté de la clarté, et puis plein de réponses à des questions qui sont un peu dormantes, et il y a tellement de théories aussi sur tout, que là quand tu te dis « Ah, c'est ça en fait la vérité », si ça vient de Dieu. Donc, ça m'a transpercée.
J'ai également lu ce livre. Alors, je n'ai pas lu tous les tomes, mais je l'ai trouvé effectivement très, très clair, très bien. Effectivement, il posait des questions très humaines, très pratico-pratiques pour certaines. Moi, j'ai la croyance, et je ne sais pas ce que tu en penses, que finalement, il y a une même source à la base. et que la façon dont certaines personnes ont la capacité ou non de canaliser, donc de recevoir les infos, mais il y en a un certain nombre, que les mots qui vont sortir passent par le filtre des croyances et du vécu de la personne. Et que c'est pour ça que parfois, il peut avoir certaines teintes différentes. Mais au final, c'est la même chose, c'est la même énergie. Tu sais, un petit peu comme tu reçois une énergie. Et puis, moi, j'ai la médecine de la voix, donc je vais la transmettre par la voix, je vais la transmettre par mes mains, parce que j'ai l'énergie dans les mains de guérison. Et il y a d'autres personnes qui vont la transmettre au travers du silence, on aura l'occasion d'en parler, au travers de retraites. Et que finalement, à la base, c'est la même chose, simplement en fonction de nos dons, en fonction de nos perceptions, de nos capacités, de ce qui nous attire. L'interprétation et la transmission sera différente.
Ouais, c'est beau.
Ça te parle ?
Ouais, je suis complètement d'accord. Ce que tu appelles la source, c'est ce que j'appelle Dieu, le divin, l'univers, tout ça, c'est la même chose. Évidemment, on ne parle pas d'une entité ni d'un homme, mais bien, de cette. Non, parce que c'est vrai que pour certains, Dieu, c'est associé à la religion ou à quelque chose, à une entité. Mais oui, je pense aussi qu'il y a comme un téléchargement qui est fait en fait constamment. C'est notre nature en tant qu'humain. Et après, je pense que plus on a l'ouverture, la capacité à entendre et à faire confiance aussi à ces messages qui sont reçus au travers de la créativité, au travers de nos idées, de nos actions. Mais c'est exactement ce que tu dis avec différentes nuances selon ce qui nous compose, en fait, comme un grand clavier.
Exactement. On va y revenir justement sur ta créativité, sur Silence, la fondatrice de Silence. Alors, avant ça, je voulais savoir quel genre de petite fille tu étais et sous quel filtre tu voyais la vie.
Alors, j'étais une petite fille. Là, quand tu me dis ça tout de suite, je vois déjà deux parties très distinctes, puisque j'étais une petite fille très, très rêveuse, très... J'imaginais des mondes, une utopie, j'adorais la nature, j'étais très joyeuse, curieuse, enthousiaste. Et malheureusement, la vie n'a pas été très généreuse pour moi. J'ai eu une enfance assez sombre, assez difficile, avec beaucoup d'épreuves qui sont arrivées tôt dans ma vie. Et donc, en parallèle de cette joie, de cette pureté, bon, après, tous les enfants ont ça, mais c'est vrai que j'avais vraiment cette ouverture qui était assez forte. Et en parallèle, j'avais beaucoup de tristesse. Et puis, ça allait de plus en plus, comme si j'avais vite déchanté assez tôt dans l'enfance. Et donc, j'avais cette... J'étais assez renfermée, j'étais assez isolée finalement, en réaction à ces événements.
Comme une forme de protection.
Exactement, oui.
Ok, merci beaucoup. Quels adjectifs tu utiliserais pour décrire ton passage dans l'adolescence ? L'idée là, c'est de retracer, de comprendre comment tu es devenue cette Jeanne d'aujourd'hui.
Wow. Rébellion. Direct, puisque ça grattait. J'ai eu une incarnation qui grattait pas mal, donc forcément c'était un peu l'explosion. Tu m'as dit trois mots ou...
Des adjectifs.
Des adjectifs, ok.
Des mots, rebelle, ce qui te parle.
Ouais, sensible. Étrange.
Pourquoi tu utiliserais étrange ? C'est par rapport à toi, l'impression que tu avais de toi-même, ou par rapport au regard des autres ?
C'est un peu les deux. C'est vrai que j'étais... j'avais du mal à comprendre le monde dans lequel je vivais. J'avais constamment l'impression, petite, que j'étais pas née au bon endroit, ni dans la bonne famille, que je m'identifiais à des utopies, à des images extérieures, en me disant c'est pas possible que je sois là, en fait. Il y avait quelque chose qui luttait à l'intérieur de moi. J'ai abordé plus tard en thérapie peut-être des refus d'incarnation de mon âme qui aurait été là plus jeune, parce que j'ai mis du temps à comprendre un peu le sens de la vie. Et résultat, étrange, parce que je par exemple à l'école, je comprenais pas ce qu'on faisait là, j'avais pas d'amis, je m'entendais pas avec ma famille, j'avais pas beaucoup de repères, en fait. Donc j'étais un peu à part quand même, un peu à l'écart.
D'accord, merci beaucoup. Tu sais, je crois que on est quand même nombreux, j'en sais rien, mais l'école, c'est assez soporifique hein, quand même. Quand ils pensent assis toute la journée à faire de toi une bête savante, à apprendre du par cœur. Moi, je me souviens en sixième. Alors maintenant, je ne vois pas le temps défiler. C'est l'avantage d'avancer en âge. Mais je me souviens en sixième, il y avait une horloge et je regardais les secondes qui s'écoulaient.
Pareil.
Et je me suis dit, je vais mourir d'ennui, en fait.
Ah là là.
Les secondes qui se transformaient en minutes.
Ah.
Et l'heure me semblait tellement interminable. Et ça m'est arrivé comme ça, des cours entiers, de me dire... Oh, et avec cette pensée qu'il y avait un autre cours derrière, tout aussi soporifique, et que mes journées allaient ressembler à ça.
Ouais.
Il y a un truc assez terrible là-dedans.
Ah ouais, le sentiment d'être enfermée, et en fait, si t'es pas dans le moule, enfin moi j'étais clairement pas dans le moule, et j'avais ce besoin de liberté, d'espace, et de voir que tous les autres enfants ou quasiment sont ok avec ça, et ils lèvent la main, ils vont au tableau et tout, j'étais, oh, mais qu'est-ce que je fous là, quoi.
C'est ça.
Je me sentais vraiment pas à ma place. Ouais. Moi, je regardais les nuages de la fenêtre. Puis, ouais, je viens du nord de la France, donc je change des souvenirs de l'école où on sort à 16h, il fait déjà nuit. Enfin, voilà. J'ai pas des bons souvenirs de l'adolescence.
Moi, je me suis rattrapée parce que, effectivement, adolescent, j'étais assez sociable, donc j'ai beaucoup investi le clan amical. Mmh. Mais c'était interminable. Mmh. Et puis surtout, ce questionnement de. Moi, cette angoisse de me dire que tous les jours allaient se ressembler et être aussi soporifique. Ouais, je m'en souviens, tu vois, du fait que tu en parles, j'ai ce truc qui remonte. Je me dis, waouh. Et ton passage dans le monde adulte, avant d'être la fondatrice de Silence, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce qui t'a amené à créer justement Silence et à devenir cette fondatrice?
Donc là, pour faire un petit peu le déroulé de cette adolescence un peu compliquée, etc., mon refus, c'était déjà en ce temps-là, même si je ne l'avais pas identifié, mais c'était la nature. C'était, j'adorais les animaux, j'aimais être seule dans la nature. Et en fait, le silence était déjà à ce moment-là mon refuge. J'ai commencé à trouver un peu le sens de ma vie dans la créativité. Et donc, j'ai fait des études de communication et de direction artistique, plus en particulier. Et donc, je travaillais... ensuite, j'ai fait mes études à Lille, puis à Paris. Et j'ai commencé ma carrière de directrice artistique. Et là, j'ai commencé à vraiment aimer parce que j'avais cette facilité à trouver des concepts, à être créative. J'adorais ça, en fait. Donc, j'ai fait ça pendant presque 6 ans. J'étais freelance, j'étais à Paris. Donc là, j'ai eu une vie qui n'a rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui, où j'étais dans la pub. J'avais une vie... très très active, je passais quasiment plus de moments seule, j'étais très entourée, je sortais beaucoup, j'étais en scooter, je faisais beaucoup la fête, etc. Et petit à petit, bon, ça m'a fatiguée. Et en parallèle de ça, ça semble complètement schizophrénique, mais j'ai ma mère qui est prof de yoga, et donc j'avais gardé quand même un fil spirituel avec j'allais en ashram chaque année avec elle, je faisais du yoga, puis je commençais à m'intéresser à l'au-delà, à la méditation, au monde intérieur, et puis en fait ça a commencé à prendre de la place petit à petit. Et si tu veux, ma carrière de direction artistique, sur la fin, les 2 dernières années, j'étais plus à nouveau plus du tout à ma place, et je comprenais plus le sens de ça, puisqu'en fait le caractère créatif que j'adorais, il était quand même teinté de commerce, d'un monde hyper superficiel, d'horaires de bureau, tout ça. Enfin, tout ce qui ne me convenait pas, ce cadre en fait, qui pour moi n'avait pas de sens et me grignotait ma liberté. Donc j'ai tout lâché en 2018. J'ai tout lâché et je savais que je ne voulais plus jamais être dans la publicité. À la fin, c'était les 2 dernières années. Je n'ai pas été jusqu'au burn-out, mais c'était vraiment lourd. Et donc en 2018, je me suis dit, soit je pars dans le yoga, dans la nature, je deviens fleuriste, enfin, je ne savais pas, mais je ne voulais plus être Pubarde. Et donc là, j'ai commencé comme beaucoup de gens par un grand voyage en solo. Donc je suis partie d'abord je suis partie en Colombie avec mes frères et sœurs, un petit voyage, enfin un mois. Et ensuite je suis partie plusieurs mois en Asie du Sud-Est. Et donc là, j'étais en recherche de sens, j'explorais en fait. Donc il y a plein de sources géniales là-bas, le bouddhisme, j'ai appris le massage thaïlandais, j'ai fait des cours de cuisine au Cambodge, j'ai fait un stage de permaculture aussi dans une ferme, dans une éco-farm au Cambodge. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses très nourrissantes. Et c'est sur la fin du voyage, après 3 mois, j'étais au Laos. Et là, en fait, je n'étais pas en train de chercher un concept entrepreneurial, je ne cherchais pas du tout. Enfin, j'étais juste en butinage complet, hyper ouverte, hyper bien, en fait. Et il y a eu une nuit à Luang Prabang, qui est un lieu de bouddhisme sacré, où je me suis réveillée et j'ai entendu des percussions dans ma tête. Et je me suis réveillée en pleine nuit et je suis allée écrire en fait. Et là, c'était. Enfin, j'ai vraiment, pour le coup, téléchargé. On parlait de téléchargement. J'ai vraiment téléchargé Silence. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas réfléchi, je ne me suis pas dit tiens, qu'est-ce que. C'est vraiment. C'est sorti, quoi.
Oui, après, il y a plein de façons différentes, comme tu me dis. Moi, comme tu le dis, moi, par exemple, j'ai fait des retraites bouddhistes dans lesquelles il y a du silence. Il y en a qui font de la... les retraites Vipassana aussi, où tu es dans le silence, etc. Et ça peut, avec d'autres concepts, te dire, tiens, j'ai envie de créer ça. Et toi, en fait, tu parles exactement de ce qui s'est passé pour Conversation avec Dieu. C'est que tout d'un coup, il y a eu blablabla, les tambours, ingling, canalisation, merci.
J'avais pas fait parce que je l'avais pas encore lu à ce moment-là, c'était avant, mais ouais, moi c'était, j'ai eu qu'une nuit, mais elle était précieuse cette nuit.
c'est une nuit qui a changé de trop. C'est ça, vivement le prochain voyage ou tout simplement la prochaine nuit, parce que l'avantage, je crois que lorsqu'on s'ouvre à ça, du coup on n'a plus besoin de faire potentiellement un voyage d'un an autour du monde pour ouvrir ses chakras, ouvrir ses perceptions, et que ça peut effectivement venir de façon beaucoup plus naturelle et spontanée en faisant un jogging sur la plage et en regardant la mer.
Complètement. En fait, en disant j'ai eu qu'une nuit, je me dis mais la gourmande quoi, en fait c'est pas vrai. Enfin, ce que tu dis c'est exactement ça, c'est que je le ressens quand je suis animée par quelque chose, quand parfois je me dis tiens j'ai dit ça, c'était... Enfin, et, bah, par exemple typiquement dans les retraites, il y a des moments où voilà, ça me dépasse tout ce qui se passe. Je sens que c'est un processus qui agit au travers de moi et que c'est pas about me quoi. C'est pas, ça vient pas, c'est quelque chose qui me dépasse, qui me transperce.
Moi j'ai cette sensation aussi quand j'anime. Alors je suis femme médecine, donc je fais du chamanisme, et donc j'ai créé deux accompagnements. Et dans mes accompagnements, lorsque je suis dans cet espace, j'ai cette impression que, comme si c'était pas moi qui parlais. En fait, c'est mon moi, mais complètement dissocié de mon ego. Donc, je sens à ce moment-là que ça vient résonner avec une justesse et des choses qui auraient pu m'activer en tant que moi, Audrey, dans la vie de tous les jours, m'activent pas du tout. Et 2-3 heures après, je me dis, ah, quand même, elle a dit ça, cette personne. Tu sais, comme si je me revenais. Et je me dis, waouh, à quel point on peut être effectivement centré. Et cette impression, et c'est une personne là, que j'avais interviewée tout au début, Benika, qui disait, oui, on peut avoir l'impression que c'est soi, mais en fait, c'est quelque chose de plus grand que soi qui vient, et qui vient créer l'énergie, qui nous donne tout d'un coup cette idée, qui vient poser les mots, et qui sait ce qui se passe en face. Enfin, il y a quelque chose de magique, mais finalement, est-ce qu'on ne serait pas une forme de catalyseur et de transmission.
Ouais, complètement.
Ouais, ça te parle, ça ? Ouais, complètement.
Ouais, moi, c'est comme ça que je vois nos vies, en fait. Pour moi, le self ou le moi supérieur qui est en chacun de nous. Et j'ai vraiment envie que tout le monde... reçoivent que c'est pas que certaines personnes qui ont tel ou tel titre ou tel ou tel apparence, mais c'est bien tout le monde en fait qui a ça, qui sommeille à l'intérieur et qui suffit d'y plonger, d'aller gratter sous les couches de l'ego pour justement s'en désidentifier, se désidentifier de toutes ces croyances, de nos peurs, de nos conditionnements, de nos limitations pour venir en soi et là où sommeille ce divin, ce self, ce Dieu, enfin, on l'appelle comme on veut.
Moi, j'aime bien l'appeler le plus haut potentiel, qui je suis justement quand je suis débarrassée de toutes ces croyances, tout ce dont tu viens de parler. Parce qu'effectivement, on a tous... c'est parce qu'à force de lire plein de livres, je ne sais plus si c'est dans Conversation avec Dieu ou pas, mais on est tous partie et intégrante de l'univers. Mmh. Et il est en nous et l'univers... et nous sommes l'univers, donc on a tous en fait la même capacité, c'est simplement que les textures, les dons, en fonction de l'incarnation, moi, c'est vraiment l'idée que je m'en fais aujourd'hui, en fonction de l'incarnation, de ce qu'on a choisi et de notre identité, on ne va pas le manifester de la même façon.
Oui, ce que tu dis, en fait, ça m'évoque les enseignements non duels. Moi, je m'intéresse depuis seulement un an, mais ça a vraiment... renverser ma perspective justement de l'illusion de la séparation qu'on a et qui rend le monde aussi compliqué qu'il l'est aujourd'hui. Et à l'inverse, si tu prends conscience qu'on est tous la même conscience unique, il y a quelque chose qui se relâche dans le corps. Alors évidemment, c'est pas parce que t'as capté la théorie que tu peux... le mettre en pratique au quotidien, il faut se le rappeler. Puis une fois que tu as vraiment imprimé ça, ben c'est ce qu'on appelle être réalisé, donc ça prendra des années ou peut-être que ça ne viendra pas dans cette incarnation-là. Mais en tout cas, j'ai capté cette théorie et c'est vrai que quand je m'y rattache, parfois c'est tous les jours, bon, y a des moments où je m'en détache un petit peu. Là, j'ai fait une retraite avec un enseignant non duel l'été dernier, donc on était vraiment bénis dans ces enseignements-là. Et moi, j'ai gardé un de ces enseignements que je trouve génial et que je partage volontiers dans mes retraites, mais aussi ici avec toi. C'est, tu vois, au lieu de dire je suis Audrey, je suis une femme, je suis, je sais pas où tu vis, bordelaise ou parisienne, ou etc. En fait, de dire juste je suis. Mm-hmm. Et de fermer les yeux et de ressentir. Je suis. Et là, enfin moi, je sais pas si tu sens ce comme un petit frisson là. J'espère que si vous nous écoutez, vous ressentez peut-être que tout de suite il y a un champ, mais beaucoup plus vaste et illimité qui s'ouvre. Qu'en fait, il n'y a pas besoin d'étiquette derrière ce je suis. Mmh. Bien sûr, c'est notre identité, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais quelque part, ça nous restreint le champ. Et quand tu dis juste je suis. En fait, c'est l'existence pure et simple et tout bien plus immense qui s'ouvre là. Et ça, si on peut... Enfin, c'est des enseignements, c'est pas moi qui l'invente, mais juste se le rappeler encore et encore. Et quand tu crois... En fait, quand tu te fais attraper par un événement dans ta journée, quelque chose qui t'énerve, ou par une pensée, ou par une émotion négative, juste de revenir à ça et... Ah ouais, en fait, on se calme, c'est rien du tout, c'est bien plus grand, en fait.
Je te remercie parce que du coup, j'ai fait l'exercice en même temps que toi. Il y avait comme une énorme vibration qui sortait, un grand et en même temps un ancrage pour te... Il y a une notion de puissance personnelle, enfin moi c'est comme ça que j'ai vécu, comme une puissance personnelle qui vient te réancrer et la vibration qui s'ouvre comme une immensité. Ouais. L'immensité des possibles, je suis en fait. Et en ça, c'est largement tellement suffisant.
C'est ça, et elle est là pour tout le monde en fait. C'est que, et toi, exactement. Évidemment, si tu es femme médecine et que tu es hyper ouverte, hyper connectée, forcément ton canal il est bien, bien ouvert, bien, bien net. Donc c'est plus facile évidemment de ressentir ça que si on a la tête dans le guidon, mais tout le monde peut, avec un peu de discipline, avec un peu de...
Oui, ou en venant dans une retraite, tout simplement pour venir justement couper.
Ouais.
Venir couper. Et j'aimerais d'ailleurs que tu nous parles justement de ce que tu proposes, du concept silence expérience, et de ce que tu proposes. Et finalement, j'ai vu passer des témoignages, mais qu'est-ce qu'il en ressort pour les personnes qui viennent ? Je pense que c'est différent, mais il y a peut-être une essence commune.
Alors donc depuis 5 ans j'ai créé Silence et je me considère au service du silence. J'organise des retraites entre 3 et 7 jours en silence. J'ai fait ça en France jusque l'année dernière et depuis cette année au Portugal aussi. Donc maintenant c'est France et Portugal. Et donc c'est des retraites où on est dans des lieux de nature, où on est en immersion de nature. On vient déconnecter au niveau digital et on vient pratiquer le silence pendant plusieurs jours selon la durée. Donc c'est des retraites qui sont inspirées de Vipassana, puisque Vipassana ça a été une expérience majeure dans ma vie, ça a été immense, mais j'ai aussi trouvé que c'était trop dur, que c'était très challengeant, et surtout quand j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait ah, ça a l'air cool ton truc, mais moi j'en suis incapable. Donc j'ai eu l'envie de créer des retraites pour pratiquer ce silence-là, pour pouvoir s'y connecter, mais dans un cadre de plaisir. Quelque chose qui soit pas réservé à une élite, quelque chose qui soit vraiment accessible. Donc sur les durées plus courtes, ça peut être pour quelqu'un qui a jamais fait de retraite ou médité ou quoi que ce soit. Et sur les plus longues, c'est réservé à parce que c'est un process qui est doux, mais qui est quand même assez puissant, de venir se mettre en silence comme ça. Et donc pendant ces retraites, on est en silence, mais on ne fait pas que méditer comme Vipassana où tu médites pendant 10 heures par jour, ce qui est un peu, ça rend un peu zinzin quand même. Donc là, en fait, on vient enrober cette expérience avec, il y a de la méditation, bien sûr, tous les jours, mais il y a aussi du yoga, il y a des ateliers de nature, il y a des bains de forêt, et ça change selon les lieux, les saisons, à chaque retraite. Et des enseignements. Des enseignements qui sont partagés autour de la connaissance de soi, autour du silence, des explorations. Et ça me fait sourire parce que j'adore ce que je fais et que tu me parles justement des retours sur les participants. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait que je fais toujours ça depuis 5 ans. C'est de voir les bienfaits que ça a sur eux. Et alors, je tiens à dire que moi, je suis au service de ce silence et que je ne m'approprie pas les bienfaits de ces participants. Je les appelle les silencieux, parce que ça pourrait paraître pompeux sinon de dire ça. C'est vraiment le silence qui opère, qui fait son travail, et les effets me dépassent, et les effets sont uniques pour chaque personne. Mais là, depuis 2 semaines, je crois que j'ai reçu 5 ou 6 mails de silencieux, soit qui sont venus il y a 2 semaines, soit qui sont venus il y a 2 ans ou il y a 2 mois, tu vois, vraiment dans la durée, qui me disent ma vie a changé. Qui se sentent vraiment transformés après ces retraites-là. Donc les effets sont uniques pour chaque personne, mais je parlerais d'une clarté en fait, qui vient déjà de le fait de venir taire tous les bruits, toutes ces perturbations en fait, des messages publicitaires qu'on reçoit, des actualités stressantes, de la pollution sonore dans laquelle on baigne dans ce monde moderne. En fait, de revenir déjà à un état et à un environnement calme, ça vient créer comme une régulation qui est vitale. Parce que si on est, enfin, le monde est de plus en plus bruyant, et plus on est dans ce bruit-là, au niveau de la santé, on a besoin de rééquilibrer au niveau. Enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui sont en état de stress, qui sont en dépression, qui sont pas bien. Parce qu'il y a trop de productivité, il y a trop de messages, il y a trop de stimulation au quotidien. Et on vient atteindre une homéostasie grâce à la pratique du silence. Et j'ai l'impression que plus le monde est bruyant, plus les gens auront besoin de ces cures de silence. Si on était dans un mode de vie naturel, calme, avec moins de stress, avec moins de cette vie à 1000 à l'heure, les gens n'auraient pas besoin de ces retraites-là. Hein. D'ailleurs, les gens qui vivent en haut de leur montagne, ils n'ont pas besoin de
silence. Tu les as jamais vus.
Non, non, non. Il y a quand même des gens qui viennent d'un peu partout. C'est pas, on n'a pas que des Parisiens stressés, hein, je voudrais dire. Je veux dire, parce qu'il y a une différence aussi entre être en silence chez soi quand tu vis en Bretagne dans un petit village calme, et vivre ça en collectif. Il se passe quelque chose aussi en termes d'énergie et de ce sentiment d'union dont on parlait aussi tout à l'heure, qui est hyper fort pour les participants. Mais ouais, il y a ce, donc je dirais dans les effets, il y a ce gain de clarté, il y a cette rencontre avec soi. C'est comme si ouais, il y avait des courts-circuits en fait dans, quand on est trop absorbé par notre quotidien, et là de venir prendre une respiration, s'extraire un petit peu du monde bruyant. Et en fait, il y a des l'impression qu'il y a des gens, bon, bien sûr, on les guide pour qu'ils viennent plonger en eux, pour qu'ils viennent observer, s'écouter, se connecter à ce self. Et en fait, ça vient ouvrir ce champ des possibles aussi. C'est ça. C'est cette connexion à plus grand que soi qu'on vient rechercher. Et après, ils réussissent à garder ça longtemps sur la durée. C'est pas juste le temps de la retraite, mais c'est comme si on venait, tu vois, comme une petite clé qui vient ouvrir une porte, et la clé, ils repartent avec eux, et c'est le silence, en fait, cette clé.
Et puis tu dis quelque chose de très juste, on peut être perdu dans un petit village et avoir le silence et se sentir dans une forme de solitude. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que de se sentir isolé parce qu'il y a, voilà, il y a une forme, voilà, on est isolé socialement, etc. Mm-hmm. Que venir pratiquer le silence et venir se dépouiller, partir à la rencontre de soi-même avec une communauté. Mm-hmm. Et puis il y a autre chose. Il y a aussi le fait, quand tu parlais d'être au service du silence, il y a le fait que, moi je dis tenir l'espace. C'est que toi, ton équipe, vous êtes là pour justement faire que le silence et les silencieux se rencontrent et puissent... tu sais, ça me fait penser un peu à... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a des gens qui veulent rentrer en détox. Et donc, j'ai fait une cure de détox au printemps. Et il y a des gens, en fait, ils n'arrivent pas à faire la bascule. Ils sont malades comme des chiens parce que leur corps n'arrive pas. Donc, ils sont blindés de toxines, mais ils n'arrivent pas à faire la bascule où le corps, blâme, va rentrer en élimination. Et du coup, c'est le rôle de la naturopathe de choper cet instant-là et de les accompagner à basculer. Et là, le corps, blâme, il se met à éliminer. Et je pense à ça, tu vois, de cette rencontre. Parfois, le silence, il peut effrayer. Moi, quand j'ai parlé du fait que j'allais être interviewée, bon, alors j'ai eu une semaine sans parler, 3 jours sans parler, de silence. Mais on fait quoi? Tu sais, cette angoisse. Mais pendant une semaine, on est assis, en fait, et en silence, et il ne se passe rien. Je vais poser la question à Jeanne. Mais j'ai senti cette espèce de zone d'angoisse, tu sais. Énorme de se dire, mais dans ce monde ultra productif, je vais m'asseoir et être une semaine à regarder les gens à côté de moi en silence, ou 3 jours. Il y a une forme d'angoisse de... Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Le fait de faire... Tu sais, il y a ces trois choses de être, faire et avoir, lorsqu'on parle de la manifestation. Et souvent, on est dans le faire et on oublie qu'avant, il y a l'être.
Ouais. Bah, c'est exactement ce qu'on invite à ne pas faire, c'est justement d'arrêter de faire. Voilà, d'aller dans une démarche de ralentissement qui est telle que presque on vient à une immobilité. Tu vois, on pratique le yin yoga, la méditation, la contemplation, la connexion à la nature, des choses très simples, sans trop de chichi. Et en fait, on vient décélérer à un point pour être ce témoin silencieux. Alors, il se passe des choses quand même, hein. C'est pas vipassana, c'est justement l'idée, c'est que ce soit pas trop décourageant. Mais c'est vrai que c'est fou, parce qu'en fait, j'aime bien cette phrase qui dit « Avant les villes, il y avait la nature, et avant le bruit, il y avait le silence. » Donc, c'est un état naturel, le silence. C'est la base, c'est l'origine, avant qu'on soit branché, connecté, hyperactif, tu vois. et en fait de regoûter à ça qui est notre essence, en fait, d'être juste l'existence, découvrir qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas, qui je suis, d'aller dans ce monde intérieur. Quand on vient gratter les surfaces de cette croûte de qui on est, en fait tu viens dans dans les profondeurs de qui tu es vraiment, dans cette espèce de vérité, et c'est ça. Et quand tu parles des gens qui ont des appréhensions, mais il y en a plein qui viennent et qui sentent qu'ils ont besoin de switcher quelque chose à l'intérieur, parce que ça, il y a un bug, hein, il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce bug-là quand même, on est beaucoup. Et moi, j'adore quand c'est des personnes qui sont hyper... voilà, qui ont les doigts bien dans la prise, tu vois. Qui sont limite au burn-out, qui fument à bloc, qui me disent « Comment je vais faire ? Parce qu'on n'a pas le droit de fumer. » Donc, qui me disent « Est-ce que je peux aller fumer ?» et tout. Et au bout de 3 jours, c'est la transformation. Enfin, c'est... et c'est... Enfin, là, j'ai eu encore il y a quelques semaines une personne qui était vraiment... hyper flippée de rentrer dans le silence, mais elle a même dit au cercle d'ouverture, parce qu'on échange quand même au début et à la fin, il y a des cercles de parole, et elle a dit qu'elle avait vraiment peur de se faire chier, quoi, au texto, et en fait, elle s'est rencontrée.
Tu sais, ça me fait... Moi aussi, je suis une ancienne parisienne, et j'ai redécouvert la nature. En changeant, j'ai dit en changeant de pays, non, je n'ai pas changé de pays pour le coup, en basculant dans le sud de la France. Pourtant, je suis née à Fontainebleau, donc j'avais la forêt. Fin. Mais à un moment, j'ai switché dans cette vie que tu décris, hein, de hyperactive, de rencontres, de sorties, de too much, de vite. Et j'ai adoré hein, d'ailleurs cette vie-là. Et j'ai quitté Paris justement parce que tout d'un coup, je crois que, c'est même pas je crois, j'étais arrivée à saturation de tous mes sens. Il y a tout le temps quelqu'un, tout le temps une odeur, tout le temps quelque chose devant soi, tout le temps des gens collés contre toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu rentres même dans ton appartement, faire attention à ne pas faire trop de bruit parce que ce n'est pas forcément bien isolé. Et tu continues d'entendre. Et donc, tu es dans une toute petite boîte et c'est là où tu peux espérer avoir un peu de silence, en fait. Et moi, je me souviens que mes sens ont explosé et que je ne supportais plus. Je mettais des bouchons dans les oreilles quand je prenais le métro, parce que le métro, à certains endroits, à Gare du Nord, sur la ligne 5, ça fait... Moi, je m'en souviens encore. Et c'était devenu insupportable. Donc oui, je te rejoins complètement. Et j'aime beaucoup la phrase... Alors, il m'en manque une partie, mais voilà, avant la ville, il y avait la nature. Et ça rejoint vraiment toute l'idée du chamanisme. Pour moi, le chamanisme, dans mon expérience, c'est un prolongement de la naturopathie que j'ai découvert. Pour moi, c'est évident. Et j'oublie parfois qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la naturopathie. Tu vois, par exemple. Parce que je suis déjà passée à la strate suivante. Ce n'est pas une question d'être meilleure. Dans ma compréhension, je suis passée à une autre strate. C'est comme si je lisais Conversation avec Dieu et qu'un an après ou 2 ans après, je le relisais. Et du coup, il y avait d'autres clés de compréhension que je n'avais peut-être pas vues la première fois. Et pour moi, la femme médecine, le chamanisme, le bouddhisme d'ailleurs aussi, hein, parce qu'on ne touche pas à aucun être vivant, c'est un prolongement. Et je remercie la naturopathie et le fait du coup d'avoir été malade, parce que ça m'a emmenée sur ce chemin de cette reconnexion avec les plantes, même si au départ c'était juste pour me soigner, pour prendre soin de moi, etc. Mais finalement, je vois à quel point ces synchronicités m'ont amené aujourd'hui à être qui je suis. Elles m'ont reconnecté justement avec la beauté et l'immensité de la nature, qui va de pair avec le silence d'ailleurs. Parce que c'est lorsqu'on est silencieux au milieu de la nature que la nature se met à nous parler.
Exactement.
Qu'on entend, parfois je communique avec les oiseaux, qu'on entend l'esprit de la forêt, que tout d'un coup, un autre écosystème qu'on ne regarde pas, qu'on n'entend pas, est présent et peut être le plus beau lieu de nos enseignements. Moi, je me souviens, j'étais rentrée une fois après des cérémonies chamaniques en plein milieu de la nature et je me sentais seule. Parce que tout le monde n'est pas femme médecine autour de moi ou branché par le chamanisme. Donc, il y avait une espèce de forme de solitude. Et j'ai communiqué avec l'esprit de la forêt. Je dis, voilà, mais qu'est-ce que je pourrais faire justement pour plus me sentir seule? Et à ce moment-là, la forêt m'explique. Elle me dit, mais quand tu es en pleine ville, tu vois qu'il y a des arbres qui sont séparés, en fait. Ces goudronnés, ils sont séparés. Mais en dessous, on est tous reliés, en fait. On est tous la même entité. Et du coup, ça m'a complètement réouvert sur le fait que je pouvais communiquer avec mes sisters d'une autre façon. Tu vois, j'adore. Et donc ça, on le trouve que dans le silence.
Ouais. Ouais, que le fait que la nature est notre plus grande enseignante, c'est vrai parce qu'elle inspire en fait cette lenteur, cette confiance que tu vois tout se fait, il n'y a jamais de stress dans la nature, la vie, la mort, les cycles, les saisons, les marées, tout ça c'est ok, c'est tranquille et personne ne s'affole quoi.
C'est ça.
Et en même temps, tout est connecté, tous les éléments sont solidaires. Il y a toujours cette harmonie en fait qui est là et c'est la plus grande enseignante clairement clairement. Et c'est marrant quand tu dis que en fait t'es allé toucher un peu le fond de enfin avec cette saturation et moi pareil comme cet état presque de maladie et quelque part si aujourd'hui toi et moi on fait pas exactement la même chose mais en tout cas on essaie de guider les gens vers un mieux-être parce qu'on est passé par là. Et moi, à chaque fois, je me dis, quand il y a des épreuves, des moments difficiles, ou quand je pense à mon enfance, qui était franchement pas un beau passage, mais c'est aussi un cadeau quelque part. Enfin, ça donne quand même une perspective plus positive de se dire que c'est si je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et quand on est dans le creux de la vague, parce que moi, j'ai aussi pas mal de personnes, des silencieux qui se connectent à moi quand ils ont des moments de tumulte, voilà, des bas émotionnels. Et c'est vrai que de se rappeler que grâce à ça, en fait, je tirerai des enseignements et je gagne, enfin, je m'élève, en fait, d'abord en allant dans le creux de la vague et se laisser vraiment, recevoir cet état qui peut être parfois tout noir et c'est là qu'on vient retrouver la lumière quand on est dans le fond de cette obscurité et quelque part c'est le si ta voix c'est ça aujourd'hui c'est il a bien fallu que tu passes par cet état de saturation de trop plein mais là j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui ressent ce trop plein que je me dis il va y avoir un éveil collectif là c'est pas possible parce
Bien
que
sûr, moi je suis persuadée, je suis une personne qui sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes en capacité de canaliser, parce qu'on l'a tous à la base, hein, mais c'est simplement que parfois c'est brouillé par un mental très puissant, etc. Mais qu'il y a de plus en plus de gens qui allaient découvrir qu'ils étaient dans une forme de médiumité, etc. Moi je crois vraiment qu'effectivement on est sur la transition. Et que j'espère que de notre vivant, on la verra, cette transition, enfin, la finalité, si finalité il y a, mais je suis persuadée qu'effectivement, il y a une transition. Moi, je ne le vois rien qu'en tant qu'entrepreneuse naturopathe. À l'époque, il y avait très peu de gens. C'était lancer un entrepreneuriat dans le bien-être, c'était vraiment anecdotique ou c'était un complément. C'était bon, elle était prof de yoga, mais en fait, tu bosses pas vraiment. Et là, je vois vraiment de plus en plus de gens qui se lancent. Et en font vraiment un métier à part entière, sont des entrepreneuses, gagnent leur vie, des entrepreneurs aussi, mais il y a vraiment un vrai mouvement. Et alors peut-être que je suis biaisée parce que je suis entourée par des gens qui sont dans le bien-être et je m'intéresse aussi à des gens qui proposent ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros élan d'envie d'accompagner l'autre, d'envie de justement de changement et que le changement commence par nous et aussi par le fait de semer des graines.
Ouais, c'est marrant que tu aies tourné ta phrase au féminin, après tu t'es reprise pour ces hommes qui sont beaucoup moins nombreux, c'est vrai, puisque
C'est vrai.
en tant que femme, on a cette tendance, je pense, cette facilité au changement, au mouvement, à pas rester figée, et puis on a quand même les antennes un peu plus connectées par l'instinct qui est quand même plus propre au féminin, mais c'est vrai que il y a aussi des hommes qui sont vraiment qui sont en chemin. Moi, j'en vois dans les retraites et franchement, je les remercie d'être là parce qu'ils sont moins nombreux. C'est courageux de se montrer vulnérable parce que forcément, l'image de l'homme fort qui met pas le genou à terre devrait changer pour que l'humanité aille mieux quand même, pour que de l'autre côté, on vienne aussi travailler le masculin et être dans plus d'harmonie. Mais merci pour cette reprise sur les femmes, c'est vrai qu'on est. Moi aussi, parfois, je dis des silencieuses, mais il y a aussi des hommes. Voilà.
Oui, moi j'ai beaucoup de femmes, donc c'est vrai que j'ai tout de suite cette image-là. Néanmoins, effectivement, il y a des hommes qui commencent à avancer sur ce chemin, qui s'intéressent au bien-être, qui s'intéressent à la spiritualité, qui font des démarches de venir. L'été, on est peut-être pas à moitié-moitié, mais il y a beaucoup d'hommes.
Ah, génial.
Et moi, ça me met en joie de voir qu'il y a des hommes aussi qui font ce chemin-là, d'y aller. Je me demande, parce que je sais plus, je crois que d'origine, dans le chamanisme, c'était surtout des femmes, en fait. Je crois que les chamanes étaient des femmes à l'origine. Bon, il y a aussi toute cette vague de sorcières, etc. Je ne sais pas s'il y a une forme de perception différente. Je ne sais pas si c'est parce que c'était la société, tu sais, qui cadrait beaucoup plus les hommes avec des attentes peut-être différentes. Mmh. Je ne saurais pas y répondre. Ce qui est, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, qui est quand même présente, on ne va pas se mentir. Il y a aussi pas mal de choses qui pèsent sur les hommes. Mmh. Et du coup, le côté yin, c'est pas forcément évident. Donc, moi effectivement, je suis d'accord de les encourager, de les remercier, de ceux qui osent franchir le pas et y aller, parce que c'est un sacré appel au courage dans un monde qui est rapidement très féminin. Mmh. Alors qu'en fait, le silence, le fait de toucher son âme, c'est commun à tous, en fait. C'est pas réservé du tout aux femmes.
Mmh. Ouais, c'est important de les soutenir. Et...
oui,
je savais tout à pas, fait. Tu vois, que je savais pas que il y avait d'origine, les chamans étaient des femmes.
Je crois vraiment. Je sais plus... qui me l'a dit, qui est assez bien renseignée. Moi, je ne suis pas assez renseignée. On me pose souvent des questions sur le chamanisme, et moi, le chamanisme m'est tombé dessus, donc je découvre au fur et à mesure plein de choses. Les dons me sont vraiment tombés sur la tête, donc je découvre au fur et à mesure, doucement, l'historique. Donc, je ne pourrais pas le certifier, mais il me semble que la personne, ça fait un peu radio-moquette, la personne qui me l'a dit, elle, pour le coup, elle était sacrément renseignée. Donc, excusez-moi pour la partie radio-moquette. J'avoue que c'est pas moi qui l'ai. Je crois où je l'ai lu, je ne sais plus. Bon, voilà, peu importe.
C'est pas...
voilà, selon mes lunettes, avec ma vérité à moi. Et merci beaucoup. J'avais une autre question. Qu'est-ce que tu répondrais si, je la pose à tout le monde, si on disait, écoute, Jeanne, t'es sympa comme nana, mais t'es un peu perchée.
Je recommanderais à cette personne de devenir perchée aussi, parce que la vie est belle sous cet angle. Rejoins-moi.
Ça te réussit bien.
Je suis pas la seule, mais je sais que je suis. Allez, viens, on est bien. Je dirais ça.
Viens goûter pour voir si Titi plaît. Et avant de commencer ce podcast, je discutais avec toi du livre donc de ton compagnon et qui parlait de toi. Donc c'est le livre sur le chamanisme et qui disait qu'il avait croisé un joli brin de fille mais qui avait une frange et que du coup il aimait pas les franges. Et là, je te vois sans frange. Et du coup, on en a discuté et j'avais envie que tu répondes à cette question, du coup, non pas en off, mais en on, parce que c'était assez chouette. Hein.
Eh bien, il m'a soumise, hein, que veux-tu.
C'était pas ça que tu m'as dit.
Non, je blague. Alors, je vais te corriger, parce que dans ce livre, il dit même pas que j'étais un joli brin de fille. En fait, il m'a complètement... il m'a pas vue. En tout cas, pas sous l'angle de l'attirance ou de la séduction. Jonathan, il est venu à une retraite silence que j'organisais en 2020. Et on a eu une grosse connexion au niveau humain, amical et professionnel. Mais pas du tout de crush. Et des raisons pour lesquelles, enfin aujourd'hui, il me dit, mais comment j'ai pu passer à côté parce qu'il y avait cette frange, et en fait, il avait catalogué les filles à frange, j'aime pas, quoi. Et pour la petite histoire, juste après ça, il y a eu le confinement. Donc nous, on s'est rapprochés, mais plus au niveau professionnel avec Jonathan. On a tout de suite parlé de collaborer ensemble, d'associer les enseignements du bonheur que lui partage avec les retraites silencieuses, parce que les deux vont se complètent hyper bien. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et pendant plusieurs mois, on est partis en Amérique du Sud. Et là, ce que je je te racontais en off, c'est que pour ceux qui ont celles qui ont des franges, peut-être vous savez qu'avec la mer et le soleil, quand on a une frange, ça ressemble pas à grand-chose. Donc j'ai commencé à l'attacher pour la laisser pousser. Et en fait, on est resté presque 4 mois en Amérique du Sud, donc la frange a poussé et finalement, je ne l'ai pas refaite. Voilà pourquoi, 3 ans plus tard, je suis sans frange.
Et tu m'avais dit aussi que du coup, c'était un moment aussi où, quand il réfléchit, il y avait une forme d'ouverture.
Oui, complètement. Aujourd'hui, avec le recul, quand je vois des photos de moi d'il y a 3 ans, puisque tout ça, c'est évidemment progressif, même si ça allait très vite, puisqu'on s'est connus il y a bientôt 4 ans, j'étais comme voilée, en fait, puisque j'étais déjà évidemment sur un chemin, j'étais épanouie d'une certaine manière, mais pas autant que je le suis aujourd'hui. J'étais encore derrière ce voile quelque part et la frange couvrait mon visage. Aujourd'hui, ça peut paraître purement concret, mais je mets plus aucun maquillage, je m'accepte comme je suis, à la fois au niveau physique, même si voilà, j'ai pris des rides, je suis maman, j'ai des cernes, etc. Mais j'ai comme si ça s'était dévoilé, et quelque part ce départ de la frange, comme si ça avait initié en fait cette phase où je m'accepte, j'accepte la vie, je suis beaucoup plus épanouie avec beaucoup moins. Et voilà, ça a été associé en fait à cette transformation physique quelque part et l'évolution dans ma vie. Donc
merci beaucoup. C'était ça qui m'intéressait.
Nouvelle coupe pour une nouvelle vie.
Nouvelle coupe, nouvelle vie. Si vous avez une frange, est-ce que vous cherchez à vous cacher?
Ce non, mais podcast c'est vrai qui que, part. C'est vrai que je me cachais quelque part avec cette frange. Ouais.
Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui se sentent appelées par justement ce besoin de reconnexion? Parfois, ça peut être cette connexion avec le monde invisible, qui ont cette quête de sens. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, qui n'osent pas forcément tout de suite soit venir dans une retraite, soit faire ce pas, mais déjà commencer juste à aller sur le chemin?
Ça on l'a déjà dit, mais je le redis quand même, la nature pour moi c'est la plus grande source d'inspiration pour s'extraire du bruit et pouvoir se rapprocher de quelque chose de plus vaste, de plus grand, et puis si possible en solitaire, et de se rappeler que la solitude ne veut pas dire l'isolement, être seul, ça peut être très beau aussi, ça peut être très ressourçant, très poétique d'être seul. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire le groupe et le collectif c'est plus joyeux, et en fait de savoir apprendre à être bien et avoir besoin d'ailleurs d'être seul, et si possible dans la nature, donc ça serait mon conseil. Et puis pour accompagner ça, la déconnexion digitale, clairement.
Merci beaucoup Jeanne. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire là?
J'aurais envie de dire qu'on garde la foi. On a parlé là je m'attendais pas à ce qu'on parle autant des épreuves de vie, enfin de ma petite biographie. Et quand je regarde un petit peu avec le recul, je me dis que tout ce qui arrive, en fait, tout ce qui est sur notre chemin est juste. Et même si c'est dur de s'en rappeler quand on est dans les moments moins roses, au final, il y a toujours des rebonds. Et j'ai l'impression que la vie nous envoie des messages et que tout est là pour une bonne raison, et tout est juste.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Audrey.
J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode, ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées, ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à La Clé de Voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.